Vous êtes toujours branchés sur les ondes du 92.1 FM et on va accueillir ce matin, 7h35, une vétérante de bonheur sur le piton, disons-le comme ça, Rachel Lemay, qui a été la première co-animatrice avant toi, Ariane. Mm-hmm. Bon matin, Rachel!
Oui, bonjour, Alison.
Oh, Rachel, on est tellement contente de t'avoir à De Bonheur sur le Piton ce matin. Et en soi, aujourd'hui, nous allons parler du jour du souvenir qui aura lieu demain. Et j'aimerais rappeler qu'on va faire également une minute de silence à 11h11 demain à la radio. Mais sinon, Rachel, toi, dans la dernière année, pendant la pandémie, tu as décidé d'un peu ouvrir tes horizons, de créer de nouvelles compétences, entre autres en prenant un cours d'écriture.
Oui, c'est exact. Oui, j'aime écrire et c'est ça que j'ai fait pendant la pandémie.
Et dans ce cours d'écriture, en fait, tu es venue aussi à vouloir conter l'histoire d'une personne qui était très proche à ton cœur, c'est-à-dire ton grand-père Prosper Limoges.
Exact, oui. J'ai écrit une histoire premièrement en anglais, In Search of Private Limoges. Et je viens tout juste de la traduire en français, À la recherche du soldat Limoges.
Alors, ton grand-père, lui, il est allé à la guerre. Et tu disais un peu plus quand on était ensemble qu'en fait, ton grand-père, au final, quand il est revenu, il était une personne assez... il était plus fermé, pas très ouvert. Mais toi, tu as réussi à retrouver son histoire. Est-ce que ce matin, tu aimerais nous partager ce que tu as découvert?
Ben, ce serait mon plaisir parce que je pense que c'est important de raconter des histoires personnelles des soldats. On entend plein de choses au sujet de la guerre et on voit plein de films et ainsi de suite. Mais ce n'est pas vivant, disons. Alors ce matin, ce que j'aimerais faire avant tout, c'est de rendre la guerre vivante à travers l'expérience de mon grand-père. Si vous me permettez.
Absolument, on te le permet. Et même, on a très hâte d'entendre ça, Rachel. Tu as le micro.
OK, alors, peut-être que je vais vous expliquer un peu mon processus d'écriture et comment je suis arrivée à écrire cet hommage à mon grand-père. Alors, je commence. Moi, ce que je me rappelle, OK, on va parler un peu du jour du souvenir. Mmh. Dans ce temps-là, ça s'appelait l'armistice, hein, les cérémonies de l'armistice.
OK.
Puis, presque... Puisque mon grand-père avait servi dans la Première Guerre mondiale, mais dans la famille Limoges, le 11 novembre, c'était une journée presque sacrée. Mmh. Et chaque jour de l'armistice, ma mère nous amenait à traîner ses 5 enfants à la Clabiche pour voir mon grand-père pour qu'on puisse participer dans les
festivités,
dans les commémorations.
Oui.
Et Rachel, si je me trompe pas, tu disais aussi que quand tu étais tout petite, tu comprenais pas nécessairement, tu étais là, mais tu savais pas pourquoi ou peut-être tu savais pas la signification de ce jour-là.
Exactement. Quand je voyais mon grand-père dans le défilé, je pense pas que je pouvais relier le soldat, tu sais, en uniforme avec un dos raide à l'homme fragile, tu sais, une voix douce que je connaissais comme mon grand-père, celui qui aimait divertir, c'était on allait partir puis c'était lui qui c'était le life of the party comme on dit en anglais là. Mm-hmm. C'était mon grand-père, il jouait des tours de magie, il chantait, il racontait des blagues, il adorait faire les gens rire. Puis il aimait les enfants, mais ses nerfs ne pouvaient pas tolérer le bruit des enfants.
Pas trop longtemps.
Pas trop longtemps, non. Puis je me souviens que quand on allait visiter mes grands-parents, ma mère nous avertissait qu'il fallait être tranquille parce qu'elle a dit que les nerfs de mon grand-père étaient fragiles à cause de la guerre.
Mmh.
Mm-hmm. Mais malgré tout, mon grand-père a vécu jusqu'à 84 ans, croyez-le ou non.
Une longue et belle vie.
Oui, mais elle a été fragile toute sa vie. Je veux dire, c'était un homme de petite taille et mesurait 5 pieds 3 pouces. Wow. Il avait une poitrine 34 pouces. Ça, c'était en pleine expansion. Puis quand elle s'est enrôlée, elle avait 25 ans, 8 mois. Puis je sais tout ça à cause de ses documents militaires.
Oui, tu as retrouvé ces documents militaires.
Exactement. Alors, je vais vous parler un peu de ma recherche, parce que À ce temps-là, Allison, comme tu dis, quand j'étais jeune, ça m'intéressait pas trop, trop. Tout ce qui me préoccupait pendant l'armistice, c'est que mes orteils gelaient parce que d'habitude, ils faisaient comme moins 20, et ainsi de suite. Et beaucoup des activités étaient dehors. Et puis, tu sais, mon imaginaire m'envoyait ailleurs, peut-être chez moi, devant un feu ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, je me rendais vraiment pas compte... Les sacrifices que mon grand-père avait fait pendant la guerre.
Alors, comment est-ce que tu t'es rendu compte de ces sacrifices, Rachel?
Bien, à mesure que je vieillissais, je voulais... tu sais, je connaissais sa vie avant, tu sais, avant qu'il soit un homme marié avec des enfants et tout ça. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé pendant la guerre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à consulter des documents militaires et des publications de guerre et même des souvenirs des membres de la famille. Et aussi, j'avais la chance, j'ai une de mes nièces qui avait fait une recherche approfondie de mon grand-père parce qu'elle aussi, ça l'intéressait. Puis elle a partagé ses découvertes avec moi. Alors, c'est là où j'ai commencé. La chose la plus importante, c'est que j'avais son numéro régimental. Puis ça, ça donne accès à ses documents. Son numéro régimental, si vous voulez savoir, c'est 3206779. Et là-dedans, vous allez trouver toute une filière. Moi, ce qui m'a aidé le plus, c'était surtout le dossier médical, parce que ça m'a donné plein d'informations. Et aussi, il y avait les documents quand il s'est inscrit. Je veux dire, c'était pas volontiers. Il s'est enrôlé parce qu'il a été obligé. C'était la conscription, la loi sur le service militaire de 1917 grâce au premier ministre Borden. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu deviens soldat? Bien, lui, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il devait aller à Calgary passer un examen pour voir s'il était en condition pour aller à la guerre. Et quand ils ont dit oui, ben là, tu prêtes serment et tu reçois ton numéro régimental. Mm-hmm. Ce qu'il a fait le 8 février 1918. Alors, là, tu te fais envoyer. Ben c'est ça. À Calgary, tu as un peu d'entraînement au dépôt. Mais quand il était là, il a eu le malheur de contracter la rougeole allemande.
Oh non!
Oui, puis son bataillon, comme lui, était déjà parti pour la Nouvelle-Écosse parce que mon grand-père était 2 semaines à l'hôpital. Et tout ça, j'ai trouvé ça dans sa filière là, médicale. Alors, il a dû aller les rencontrer à Halifax. Ensuite, il est arrivé le 24 mars. Il est embarqué avec le reste des soldats pour l'Angleterre où ils sont allés à Bramshot Common, qui était un camp militaire temporaire, pour faire plus d'entraînement, comme par exemple comment creuser des tranchées, le combat à baïonnette, le lancement de grenades, plein de choses essentielles. Hein. Ensuite, ils se sont entraînés pendant 4 mois avant d'être appelés en France. Mm-hmm. Mais peu importe la formation qu'il avait reçue, mon grand-père, ni aucun soldat, était prêt pour la vie dans les tranchées. Et ça, il l'a décrit, il nous en a parlé. Et ce qui était le pire, c'était comme la pluie incessante, l'humidité, le froid. Il nous parlait des hommes qui marchaient dans la boue jusqu'aux genoux, dans les tranchées, puis, je veux dire, grelottés de froid, là, qui étaient gelés jusqu'à la moelle des os. Ça, c'était le pire. Puis, il racontait aussi que pour soulager ses souffrances, lui, il s'imaginait à la maison, sous ses couvertures dans son lit chaud, avec son frère Albert. Ça, c'était, il était très proche de son frère Albert. Voulez-vous que je vous raconte une de ces histoires?
Oui, absolument. Vas-y, Rachel, c'est on est captivés par ton histoire ce matin.
OK. Mais il parlait très rarement des atrocités de la guerre, hein, comme la plupart des soldats. C'est très difficile à raconter. Mais un jour, il a raconté une histoire horrible à un des membres de la famille. Puis cette personne-là était assez intelligente pour transcrire tout ce que mon grand-père a raconté. Alors, je lis comme ça a été transcrit par l'auteur. Plusieurs hommes et Prosper étaient dans les tranchées. Les vents violents soufflaient du chlore gazeux directement sur eux. Par conséquent, ils devaient lever la tête rapidement pour prendre des bouffées d'air frais à différents intervalles. Alors que Prosper jetait un coup d'œil hors de, du tranché, son regard se fixa sur un jeune soldat allemand qui tenait sa baïonnette directement sur lui. Pour sauver sa vie, Prosper n'a autre choix que de plonger sa baïonnette dans la poitrine de l'ennemi. Les larmes aux yeux en racontant l'histoire, Prosper a déclaré qu'il restait toujours traumatisé et faisait continuellement des cauchemars concernant cet incident. Une image vivante d'un beau jeune homme aux cheveux blonds, aux yeux bleus brillants, grands ouverts, et au son de son dernier souffle avant de mourir, est restée avec lui toujours. Alors, comment est-ce qu'on peut revenir pareil après avoir passé une expérience comme ça?
Absolument.
Ensuite, mon grand-père a été envoyé en France et en Belgique pendant les combats les plus intenses de la guerre. Ça, c'était les derniers 100 jours de la guerre. 20% de toutes les pertes canadiennes mortelles ont eu lieu pendant ces 100 jours-là. Mmh. Et lui, il était au sein de l'action. Je pense qu'il était au front. Hein. Puis, ce qui était intéressant avec ma recherche, c'est que j'ai suivi son document, son dossier médical, et ça m'a dit exactement ce qui s'est passé. C'est incroyable comment l'armée avait gardé des records si exacts. Mais ça dit, l'intensité croissante de la guerre se reflète dans son dossier médical. Il a été blessé sur le champ de bataille le 8 septembre. Le 9, il a été gazé. Il a reçu des soins médicaux sur le champ. Son état s'est aggravé. Le 15 septembre, il a été transporté à l'hôpital général en Aubagne, France, où il a dû rester 2 mois. Mm. Puis quand il était ça, ma mère m'avait raconté ça, quand il était à l'hôpital pendant 2 mois, il est tombé amoureux d'une jeune infirmière française.
Oh.
Alors, on a trouvé ça un détail intéressant, mais ils se sont connus très peu parce que le 8 novembre, mon grand-père a dû retourner au front. Alors, le 8 novembre, tu vois, et là, ensuite, le 11 novembre, l'armistice a été signé, puis c'était la fin de la guerre. Alors, qu'est-ce qui arrive à la fin de la guerre? Mais tu dois rester là assez longtemps parce que mon grand-père était seulement revenu le 27 mai 1919. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait tout ce temps-là, là. en Europe et ainsi de suite. Mais ça a pris au moins 8 mois avant qu'il revienne. Puis là, il est revenu à Calgary. Il a reçu son congé. Puis, ce qui m'a étonné, c'est que mon grand-père était seulement dans l'armée pendant 18 mois au total. Je ne savais pas combien de temps il avait servi.
OK. Mm. Mais ça l'a marqué pour toute sa vie, par contre.
Ça l'a marqué. Puis comme si, pour moi, c'est un héros parce qu'il n'est pas revenu avec un grand fanfare là, où ils ont fait des films où il avait une poitrine pleine de médailles ni rien. Il était juste un homme ordinaire, mais qui avait été appelé pour faire quelque chose d'extraordinaire, comme tous les soldats. Et puis, c'était tellement extraordinaire, en fait, que ça a changé le cours de l'histoire.
Oui, absolument.
Et c'est pour ça que moi, je trouve essentiel que leurs histoires soient racontées, puis que leur voix soit entendue, leur sacrifice à tout jamais rappelé, parce que si on oublie notre passé, on va peut-être répéter les mêmes erreurs. Hein?
Absolument. Rachel, il n'y a pas de meilleur mot pour terminer cette discussion ce matin. Et je crois que pour ceux qui étaient peut-être pas sensible à la cause. On a ouvert beaucoup les yeux ce matin. On apprend beaucoup et une très belle histoire. Et dernièrement, une dernière petite question. Est-ce que tu encourages tout le monde à faire des recherches comme les tiennes? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté beaucoup de plaisir, qui t'a satisfait, qui te peut-être explique un peu plus ta vie et l'histoire de ta famille?
Moi, je suis très contente d'avoir cette information-là et j'ai, tu sais, continué avec mes enfants et j'envoie, tu sais, mon histoire à la famille pour qu'ils connaissent l'histoire parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse dans l'histoire, mais je pense quand on peut la rendre un peu plus vivante comme ça avec un exemple personnel, que plus de gens vont s'intéresser, puis peut-être que ça va les encourager d'aller chercher comme... c'est assez facile, comme je dis, si on a le numéro régimental du soldat, je veux dire, j'étais, il y avait une enveloppe et tous les documents, comme j'ai imprimé tous ces documents militaires, et puis à force de fouiller là-dedans, c'est comme ça que j'ai été capable de...
Récréer l'histoire.
Oui, oui.
Incroyable.
Eh bien, merci beaucoup, Rachel Lemay, d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de te retrouver à De Bonheur sur le Piton. On va te souhaiter une bonne journée. Et nous, on poursuit en musique à Boréal FM. Restez branchés.